Chapitre 5. Laissez donc mes oignons, s'écria la cuisinière furieuse. Vous n'êtes plus bonne à rien. Allez vous coucher, oui, allez vous coucher. Quelle maison! C'est pas vrai, dit Francine en essuyant de l'avant-bras ses yeux rouges. Je ne peux pas éplucher des oignons sans pleurer. Est-ce ma faute? Ne mentez donc pas, imbécile. Vous sanglotiez. Je vous entendais de la buanderie. Vous me faites pitié. Je devrais vous flanquer des gifles. Ça ne serait pas un mal, je voudrais être morte, madame Fernande. Si je meurs, je demande à être incinérée. Brûlée, quoi. Les os aussi, tout. J'ai fait un écrit qu'on trouvera sous le marbre de ma commode. Et même j'ai envie de vous le donner. Rapport à monsieur Fiodor, il fouille partout. Gardez-le, petite dinde. Je ne me mêle pas de ces choses-là. Les romans vous tournent la tête. Faites comme moi, n'en lisez jamais. À votre âge, on pense bien assez aux hommes, sans risquer de s'échauffer encore le sang par des inventions. Mais vous n'avez pas plus de défense qu'un enfant, avec vos yeux couleur de plomb fondu. Des yeux gris, ça n'est pas humain. Du vice, dites plutôt du malheur. Je ne suis pas chanceuse. Je n'ai pas seulement de ligne de chance dans la main, je suis une enfant du malheur. Et pour faire voir du pays à monsieur Fiodor, laissez-moi rire. Un homme de cette espèce-là, caressant et rusé comme une femme, aussi féroce qu'un petit chat. Féroce? Taratata! Des âmes féroces, vous voyez ça dans vos films. C'est pareil à votre histoire d'incinération, votre ligne de chance et le reste. Des visions. Une bonne soupe épaisse le matin vers 6 heures, du quinquina avant les repas et la tisane d'herbe chaque soir avant de se mettre au lit, pour combattre l'humeur du sang. Voilà le conseil d'une mère de famille. Et je suis sûr d'avance que vous n'en ferez pas plus cas que de votre première dent de lait. Ainsi va le monde. L'expérience est une invention des vieux qui met les jeunes en colère sans profit pour personne. Une chance encore que vous ne m'éclatiez pas de rire au nez. Je n'ai pas envie de rire, non. Riez quand même. On n'a pas trouvé mieux contre les folies du sentiment. Autrement, vous rirez trop tard. Et Dieu sait où ça mène de rire trop tard quand on a le cœur pris par un désespoir d'amour. Droit au puits pour s'y jeter, tête première. Pourquoi pas? Taisez-vous donc, vicieuse. À force de ruminer cette bêtise jour et nuit, vous finirez par la faire. J'en ai vu de plus malicieuses que vous, chippées par le suicide, l'idée fixe à ce qu'on dit, gobées comme des mouches. Ni vous ni moi ne sortons de la cuisse de Jupiter, peut-être. On doit vous parler franchement. Eh bien, les gens du grand monde se détruisent moins souvent que nous, c'est un fait. Des hauts, des ah, des vapeurs et des attaques de nerfs, ils ne sortent pas de là, juste assez pour mettre le personnel sur les dents et enrichir les spécialistes du genre de ce professeur Lapérouse qui fait tourner monsieur en bourrique. Une petite boniche n'a pas le moyen de se payer les mélancolies de millionnaire. Pas le moyen, c'est ce qui vous trompe, madame Fernande. Pensez de moi ce que vous voudrez, je ne suis peut-être pas si borné que j'en ai l'air. Je m'exprime mal, oui, mais un peu plus, un peu moins, l'amour fait bafouiller tout le monde. D'ailleurs, on ne dit rien de bon là-dessus dans le livre, des blagues. L'amour, voyez-vous, c'est dur, ça n'a pas d'entrailles, ça pourrait même rire de tout, comme une tête de mort. Je n'ai plus d'égard pour moi, plus de coquetterie. Une robe neuve me dégoûte. On ne voudrait pas être aimé pour sa robe. Au début, oui, sans doute, vous montrez volontiers un manteau, moins encore un bonnet, un bout de ruban, un joli petit soulier avec une boucle neuve. Et vous riez, vous serrez vos doigts, vous trouvez des bêtises à dire. On croit l'amour riche, gracieux. Il faut ça pour nous tenter, il nous prend par la douceur, les manières. Mais en réalité, madame Fernande, sitôt le poisson ferré, adieu les douceurs. L'amour se montre tel qu'il est, nu comme la main, nu comme un verre. De surprise, la cuisinière avait laissé glisser sur la table ses bras énormes, et lorsque la pauvre fille se tut, elle remua les épaules, ainsi qu'un baigneur saisi par le froid. « Vous me faites peur, Francine, » dit-elle. « Je vous crois folle. Il y a un vent de folie dans cette satanée maison, sûrement. Le pis est qu'on ne peut pas douter de vous. Il faut vous croire sincère. » J'en ai les jambes coupées. » Elle renifla bruyamment, essuya ses yeux où brillait déjà sous les larmes la sauvage curiosité femelle, plus forte qu'aucune passion. « Je vous tirerai de là, ma petite. je ne vous laisserai pas manger par un sale russe, un vrai démon. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous mettre dans la tête, à vous, une étourdie qui me chipait encore l'été dernier mon sucre et mon chocolat, et qui chantait du matin au soir. Nom d'un sac, vous n'êtes pas abandonné, vous avez des amis. On devrait prévenir la police. Soyez franche, hein. Je parie qu'il vous menace, le vampire. Me menacer, moi? Osez donc le répéter, grosse boule de son, hypocrite. Il n'a jamais menacé personne. Il est malheureux, voilà tout. Malheureux à un point qu'on n'imagine pas, qui vous donne mal au cœur, au ventre, le vertige, quoi. Quand il bâille, vous diriez un roi, un dieu. Il explique que c'est ainsi dans son pays, sous un ciel blanc, la terre blanche, avec de petits bouleaux, les cabanes, des lacs gelés, un gros soleil rouge et des loups. Puis il parle de la mort d'une manière si douce, si affectueuse, et il avoue qu'il ne m'aime pas, qu'il ne pourra pas m'aimer. Pauvre chat. Imbécile, triple imbécile, son pays, de quel ton elle a dit ça, et malheureux. Il en a l'air, il joue aux cartes jusqu'à dès 2 heures du matin, il est vêtu comme un prince, il fume des cigarettes dorées qui sentent le poivre et la lavande. Des malheureux, parle-moi de ton père, imbécile, qui s'est gâté la poitrine en soufflant le verre, une fois ta mère défunte, pour vous élever tous les 6. A-t-on idée d'adorer à 2 genoux un mendiant russe, quand on l'a traité 10 minutes plus tôt de rusé, de féroce et quoi encore? Madame Fernande, je regrette de vous avoir injurié, pardonnez-moi, j'ai mes nerfs. Seulement, ne soyez pas injuste, allez, au début je l'étais aussi. Je voudrais bien vous expliquer, mais c'est trop difficile, les mots manquent. D'ailleurs, je ne suis pas même à plaindre du tout. Il ne m'aime pas, bon, je ne peux pas lui en vouloir, il est trop malheureux, je dois être malheureuse avec lui, à cause de lui. Je suis son égale maintenant, voyez-vous, il l'a dit. Je me fiche du reste, je ne veux pas qu'on se mette en peine de moi, je mourrai comme une mouche. Naturellement, ça vous paraît sombre, triste, ça fait froid de m'entendre. Et justement, c'est ce froid-là qui me repose, je suis lasse. Le soir est triste aussi, Madame Fernande. Pourtant, lorsque le soleil vous a rôti les épaules et sorti les yeux de votre tête, n'est-on pas bien aise de voir les fonds noircir et les gros papillons de nuit? Les fonds noircir et les gros papillons de nuit, je crois l'entendre. Elle répète sa leçon mot pour mot, l'innocente. Et il l'amènera tranquillement jusqu'au fond de la rivière avec ses belles phrases creuses comme un turlututu. C'est ce qu'il veut, sotte que vous êtes. Oui, il n'en veut qu'à vos sous. Ne mentez pas, il vous a volé plus de 1 000 francs. Et puis après, vous en verrez bien d'autres, Madame Fernande. Je ferai un testament et il aura tout. Bon, bon, restons-en là. Seulement, ma belle, vous saurez que j'ai un travail ici. Je ne suis pas rentière. Vous irez vous pendre ailleurs, foi de moi, je ne vous supporterai pas plus longtemps. Est-ce que monsieur vous paie pour geindre tout au long du jour, ou débiter des horreurs sur un ton de première communiante, à vous donner le bon Dieu sans confesse? Je vous ferai flanquer dehors par monsieur, oui, moi qui vous parle, entendez-vous, et dans l'intention de vous servir. À votre égard, une mère n'agirait pas mieux. Rentrez à Paris, on saura si le russe court après vous. Je suis tranquille. Et pas plus tard qu'à l'instant même, faut que je le voie, rapport au fût d'huile d'olive. Je m'en vais lui dire 2 mots qui me brûlent la langue depuis longtemps. Si vous ne voulez pas l'appeler, je le ferai prévenir par François. François est à la ferme, il répare la lessiveuse. Croyez-vous que ça me gêne d'appeler M. Fiodor? Cette malice! Vous verrez quel homme il est, Madame Fernande. Il vous retournera comme un gant, le mignon. Bon, bon, parle toujours, riposta la cuisinière offensée. Et dites-lui d'apporter le fût sur la brouette du jardinier, comme tout le monde, au lieu de jouer à l'Hercule. Il a failli me laisser tomber sur les pieds la dernière barrique de Porto. 100 litres! Elle reprit son couteau d'un air grave. Fille d'un forgeron cabaretier de la vallée d'Avre, qui donnait des balles à la jeunesse chaque dimanche, elle ne croyait pas petite son expérience des choses du cœur. Mais dressée dès sa jeunesse à la jovialité normande, qui ne songe guère à cacher aux domestiques, ni même aux voisins, une débauche honnêtement calculée, selon la prudence héréditaire, en proportion des ressources et des libertés de chacun, elle commençait de trouver irrespirable l'air de cette maison trop secrète, apparemment dédaignée des hobereaux chasseurs, et des gras curés villageois, si différentes des châteaux où elle avait servi, maisons hantées seulement de médecins, de prêtres, d'historiens, de journalistes suspects, austères jusqu'à la tristesse, mais qu'elle sentait travailler néanmoins de beaucoup de vices et d'humeur. Par-dessus tout, elle méprisait la faible santé du maître, ses remèdes, les répugnances puériles de son estomac, d'autres manies encore qu'elle prétendait femelles, indignes d'un homme. Ayant connu jadis, du temps de sa jeunesse, et au hasard d'un extra, Madame de Clergery, déjà mourante, elle avait reporté, presque à son insu, discrètement, sur Mademoiselle Chantal, une espèce de pitié dévote qui n'était pas sans délicatesse ni clairvoyance. Le goût de sa fille pour cette forte commère, il détestait les gens gras, faisait le scandale de Monsieur de Clergery. Elle sut, disait-il, je ne puis l'avoir sans haut le cœur. Mais il devait toujours ignorer que dans la solitude tragique où la mystérieuse petite fille allait donner le suprême effort de sa vie même, elle ne trouverait nulle part ailleurs que dans cette sollicitude grossière un peu d'aide et de repos. « Elle n'est pas trop fine, répondait Chantal, ni trop dévote non plus, et elle me raconte des histoires étonnantes où elle a mis le sel de sa cuisine. Si je l'aime ainsi, c'est qu'elle ne ment pas. » Je vous avais fait prier de prendre la brouette, monsieur Fiodor. La porte de la buanderie est si basse. Sûrement, vous aurez encore abîmé le chambranle. Qu'importe, il déposa le petit fût à la place ordinaire et tourna vers madame Fernande un visage calme et triste. Oui, qu'importe, je n'ai reçu d'ordre de personne. Je n'ai voulu que vous plaire, rendre service. Pour le reste, n'est-il pas juste que j'agisse à ma guise, selon ma fantaisie, au risque d'égratigner en passant une pièce de chêne? C'est une chose qu'une femme ne peut comprendre. On a parfois besoin d'éprouver ses muscles. « Il faut que vous ayez toujours raison, » répliqua la cuisinière d'un ton bourru, où il sentait très bien frémir l'impatience, la curiosité, un dépit qui lui déplut. À la fin, à la moindre observation, que de phrases !« Nous sommes ainsi, » fit-il, « nous sommes bavards. » Et maintenant je suis capable de parler comme un Français, plus brutalement même. Vous pensez beaucoup de mal, madame Fernande, trop de mal. On doit délivrer son cœur. Moi aussi je veux vous dire un mot de mademoiselle Francine. Vous avez peut-être écouté aux portes, ne vous gênez pas, remarqua la grosse femme furieuse et déçue. Je m'en moque. J'ai assez de vos manières, voilà le mot. Une mère de famille n'a pas à vous cacher ce qu'elle pense. Votre place, monsieur Fiodor, n'est pas dans une maison sérieuse, dans une maison d'honnêtes gens. Il y a de la bêtise ici, je ne prétends pas le contraire. Mais il n'y a pas de méchanceté. Vous, vous êtes méchant. Je connais Francine. Vous l'avez rendue folle exprès, par vice. Vous êtes malin comme un singe. Elle finira par se détruire, vous l'aurez assassinée. On en guillotine qui sont moins coupables que vous. Elle s'attendait à un cri de colère, ou peut-être à un éclat de rire, un défi. Le Russe l'écoutait en silence, immobile, aussi pâle qu'un mort. Elle se tut. « Est-ce possible ? » dit-il tout à coup de sa voix chantante. « Regardez cette poitrine, madame Fernande. » Il écarta violemment sa chemise de soie, découvrit une peau nue et lisse, marquée de 5 cicatrices profondes. « Voyez la trace des balles. J'ai été fusillé à Vroski, devant le mur de l'école, moi qui vous parle. Les 5 canons de fusil à quelques pas, je les aurais presque touchés de ma main, et la neige était rouge de sang. Ils avaient allumé un feu avec les bancs et le tableau noir, ils y brûlaient nos effets, nos papiers, nos pauvres culottes raccommodées avec du chanvre, et, d'un bâton pointu, nos bottes. Je voyais monter cette fumée sale dans le ciel. Quel homme a contemplé sa fin de plus près, face à face? Eh bien, par ce souvenir, qui m'est plus sacré que n'importe quelle femme, que ma mère même. » Il se signa sur les lèvres. « Je n'ai pas voulu faire le mal. J'ai agi avec simplicité, sottement. J'aurais désiré que la fille fût mon amie, ma camarade. Où est mon crime ? » Elle était jadis simple et fraîche, champêtre. Elle sentait le foin. Je l'eusse volontiers embrassée, ainsi qu'un petit frère. Aujourd'hui, voyez-la, que puis-je ? Elle a renié sa nature, elle est entrée dans le vieux mensonge. D'elle ou de moi, qui a changé ? Oh, vous parlez bien, Vous êtes rusé, je connais vos malices. Seulement, avouez que depuis des semaines, vous tourniez autour de la petite, vous parliez bas. Elle était là comme un oiseau, tellement blottie, fascinée, elle aurait tenu dans le creux de la main. Et puis vous l'avez appris à jurer en russe, à fumer, à boire de l'éther, des saletés. Devais-je me moquer d'elle, la rudoyer? Je ne vous le cacherai pas, madame Fernande. L'expression de son regard devint tout à coup si vague que la cuisinière en soupira de surprise et de dégoût. Vous semblez ne savoir nullement ce qu'est le malheur. La fille, elle, le sait, car pleurer un mort, la perte d'un procès, jurer contre le Christ, blasphémer, ce n'est pas le malheur. Le malheur est calme, solennel, ainsi qu'un roi sur son trône, muet comme un suaire. Quant au désespoir, il nous donne un empire égal à celui de Dieu. Et c'est ce que vous contiez à une gamine, farceur ? Madame Fernande, dit le russe, sans cesser de sourire d'un sourire humble, innocent, détrompez-vous. Une femme comprend aisément le malheur. Oui, il y a sans doute en chaque femme comme une source de tristesse. Ainsi cherche-t-on l'eau sous la terre. Voyez, cependant, mademoiselle Francine l'a épuisée d'un coup, c'était une petite source de rien. Aujourd'hui, elle ne sait que pleurer, s'enivrer, décacheter mes lettres, ou boire dans mon verre aussitôt que je tourne le dos pour allumer une cigarette. Ce sont des enfantillages. Et si elle se tue, appellerez-vous ça encore un enfantillage, hypocrite que vous êtes ? Assez, fit le chauffeur d'une voix plus grave. Je gagne ma vie honnêtement. Je fais mon service, je ne souffrirai pas que vous m'insultiez. D'ailleurs, je désespère de me faire comprendre de vous, madame Fernande. Certes, j'ai commis bien des actes téméraires qui vous paraîtraient incroyables. Le plus téméraire de tous sera probablement d'être entré un jour dans cette maison. Hein ? Quoi ? Quelle maison ? Monsieur Fiodor pâlit, croisa nerveusement les mains. Vous savez ce que cela signifie, madame Fernande. Sur ce point, du moins, vous voyez clair. Le mensonge est ici plus vivace qu'ailleurs, il jette sa graine partout. Il finirait par ronger la pierre. La vieille dame est née de lui, c'est sûr. Elle ressemble à un champignon poussé entre les racines d'un arbre, au crépuscule. Notez qu'elle n'a commis aucun crime, je suppose. Mais son âme est avec son trousseau de clés, la mère avare. Et pour lui, qui donc l'a jamais vu rire d'un rire d'homme? Avec sa barbe de pauvre, ses mains molles, la peau grise de son cou, son haleine. Écoutez, madame Fernande, excusez-moi, je le crois mort depuis longtemps. Quelle horreur! Il y a encore ses amis, les intimes amis en français, n'est-ce pas? Christ, à Paris d'abord, ils m'ont fait rire. Ici, je les déteste. L'évêque Espelette ressemble à n'importe quelle dame professeure à l'Institut des jeunes filles d'Ostrov. Son âme à lui doit être une petite flûte. Comme il caresse des mains, du regard, comme il souhaite de plaire. Il joue avec le médecin Lapérouse, avec le journaliste, avec le juif, avec tous. Il joue entre eux, ainsi que des enfants tristes, dans la cendre, un jour d'hiver. Ils ne savent assurément ce qu'ils veulent. Chacun désire un rang, une place, la renommée, l'or, et sitôt la place occupée, je suppose, elle est trop grande pour lui, il désire humblement plus bas. Oui, madame Fernande, personne ici n'a le courage du bien ni du mal. Satan lui-même s'y dessinerait comme une traînée de poussière sur un mur. Ses longs yeux brillaient de plaisir, il alluma une cigarette. D'ailleurs, n'avons-nous pas maintenant assez parlé, madame Fernande ? À quoi bon ? Je dois remplir mon réservoir, j'ai 100 kilomètres de route à dévider avant 7 heures. « Attendez un peu !» supplia la cuisinière presque humblement. « Voyez-vous, j'ai servi des maîtres qui ne valaient pas cela pour les manières, l'éducation, la fortune et le reste. Cependant, parole d'honneur, je n'ai jamais été si mal à l'aise. Je rêve les nuits, il faut que je rallume ma bougie. J'ai même des tremblements. Ça ne m'était pas arrivé depuis la mort de ma 3e fille. Tenez, la vieille dame est ce qu'elle est, d'accord. » Seulement, j'ai du mal à l'entendre traiter de chameau, en face, sans baisser la voix. Je fais la sourde, je voudrais me fourrer dans un trou. Notez qu'elle comprend, j'en jurerai. mais elle n'est pas sûre. Autrement, elle leur sauterait aux yeux, la vilaine. Et puis le patron a horreur de la jeunesse, c'est connu. Sa femme est morte d'ennui. Positivement, il resserre le cœur. Sans plus parler de Francine, monsieur Fiodor, ni me mêler autrement de vos affaires, votre place n'est pas ici. Non, croyez-moi, l'air d'ici ne vaut pas grand-chose pour vous. Allons donc, dit le russe d'une voix douce. Il est trop tard, madame Fernande. Je dois voir la fin de cette aventure, vous le savez. Peut-être les gens ne sont-ils pas ici pire qu'ailleurs. Médiocres seulement, ridicules et bas. Mais l'air qu'ils respirent suffirait à les rendre plus noirs que des démons. Moi-même, j'ai perdu mon sens. Je suis pareil aux mots d'une langue oubliée. Hélas, madame Fernande, le secret de cette maison n'est pas le mal, non, mais la grâce. Nos âmes maudites la boivent comme l'eau, ne lui trouvent aucun goût, aucune saveur, bien qu'elle soit le feu qui nous consumera tous éternellement. Que dire? Chacun de nous s'agite en vain, se débat. Nous sommes pris entre les mailles d'un filet qui nous emporte pêle-mêle où nous ne voulons pas aller. Excusez-moi de parler devant vous ce langage insensé. Je vous parais fou, délirant, vous me croyez ivre. Que non, tout finaud que vous êtes, vous n'en remontrerez pas à une fille de la vallée d'Avre. Je suis votre pensée depuis un moment, monsieur Fiodor, je ne la perds pas de vue, comme une tanche au fond de l'eau. Bah, vous parleriez bien encore, je lis ça dans vos yeux. Un homme ordinaire, quand il a quelque chose à dire, ses yeux brillent. Les vôtres languissent. Il n'y a pas moyen de se tromper. Moi aussi, s'écria le chauffeur, avec une impatience presque convulsive, moi aussi je connais votre pensée. Qu'importe, Francine, hein? Nous nous moquons bien de la fille. Il y aura bientôt 2 semaines, je pourrai donner l'heure exacte, vous avez pensé à me prendre en défaut, me surprendre. Oui, c'était le jour où la vieille dame s'est perdue. Monsieur Grondet hochait la tête, il n'a jamais paru plus petit, plus mesquin. Il sentait le rat. Quelle chaleur! Le mastic coulait le long des carreaux de la véranda. Vous avez tort de rougir, madame Fernande. Et pourquoi donc voulez-vous que je rougisse, insolent? Les yeux du russe se vidèrent instantanément de toute lumière. Parce que vous me croyez l'amant de la mademoiselle, fit-il sans élever la voix, mais si nettement que les paroles sonnèrent aux oreilles de Fernande, comme si elles venaient d'être criées à tue-tête. Vous m'avez vu sortir de la chambre ce jour-là. J'ai reconnu votre jupe au coin du couloir, dans l'ombre, bien que les persiennes fussent closes. Pour ne pas répondre, la grosse femme fit sans doute un effort désespéré. Monsieur Fiodor s'était tu depuis longtemps, qu'elle semblait l'écouter encore, ses 2 larges avant-bras posés sur la table, le visage penché et si attentive que la grossièreté même de ses traits en était comme ennoblie. N'avez-vous pas honte, reprit-il? Le mauvais rêve est en vous, en nous, dans nos consciences. La mademoiselle est trop pure, elle va, elle vient, elle respire et vit avec la lumière, hors de nous, hors de notre présence. Et néanmoins, elle rayonne à son insu, elle tire de l'ombre nos âmes noires, et les vieux cruels péchés commencent à s'agiter, bâiller, s'étirent, montrent leurs griffes jaunes. Demain, après-demain, qui sait? Une nuit, cette nuit même, ils s'éveilleront tout à fait. Je l'ai déjà prédit, madame Fernande. La maison est vile, chétive. Vous y verrez cependant des choses étonnantes. Voici qu'elle tombe en poussière.